Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
Et la presse européenne revient ce matin sur le coronavirus et ce qui se dégage, c'est l'incertitude par rapport aux prochains jours.
Oui, une deuxième vague semble se profiler en Europe, mais à quoi va-t-elle ressembler? Sera-t-elle différente de la première? Et si oui, en quoi? Toutes ces questions et le manque de réponses claires sont perceptibles dans la presse européenne. On y distingue les inquiets et ceux qui veulent garder espoir, ceux qui voient en quelque sorte le verre à moitié vide et ceux qui le voient à moitié plein. On peut prendre le cas de la Belgique, par exemple, qui fait face à une recrudescence préoccupante de Covid-19. Plus d'informations sur le site de la RTBF. Le nombre moyen d'infection au coronavirus en Belgique entre le 18 et le 24 juillet a augmenté de 69% par rapport à la semaine précédente. Des mesures ont été prises. La bulle sociale de chacun doit désormais être réduite à 5 personnes. Les événements publics voient leur limite passer à 100 personnes en intérieur et 200 en extérieur. Quant aux courses au magasin, elles doivent désormais être faites seules en 30 minutes maximum. Interviewé par la RTBF, toujours le virologue belge Emmanuel André ne cache pas son inquiétude. On sait, dit-il, que ce virus est capable de se déplacer avec les contacts. On sait également qu'on va avoir toute une série de vagues suite au retour de vacances. Il y aura ensuite la rentrée scolaire et tous les virus respiratoires de l'hiver. On s'apprête à vivre des semaines et des mois difficiles. Fin de citation. Pour autant, et c'est cela que j'évoquais, sur le même site de la RTBF, on trouve aussi un article qui liste les raisons de ne pas encore céder à la panique. Même si on a observé une forte hausse des contaminations en province d'Anvers, il faut remarquer que plus de 200 communes belges sur 581 n'ont pas enregistré de nouveaux cas en cette fin de mois de juillet. Le nombre d'hospitalisations en Belgique, note la RTBF toujours, reste limité pour le moment. Le nombre de décès augmente peu, cet indicateur reste bas depuis le début du mois de juin. De plus, le personnel soignant et la population ont l'expérience de la première vague. Malheureusement, dit la RTBF, les gestes barrières ne sont pas toujours respectés, les masques sont souvent mal utilisés.
Ilan Malka, vous avez lu également la presse italienne.
Oui, alors le Sénat italien a adopté à la majorité une résolution qui donne le feu vert à la prolongation de l'état d'urgence en Italie jusqu'au 15 octobre. Les débats ont été vifs sur le sujet, c'est ce que nous raconte le journal La Repubblica. Le virus continue de circuler, la prolongation est nécessaire, voici les mots du Premier ministre italien Giuseppe Conte. Le chef de la Ligue, Matteo Salvini, n'est pas d'accord avec lui, il estime qu'il n'y a pas de justification sanitaire et juridique à cela. S'il n'y a pas d'urgence, vous ne pouvez pas déclarer l'état d'urgence, c'est aussi simple que cela, c'est une demande inappropriée et illégitime, fin de citation. Et du côté des éditoriaux, c'est un petit peu la même chose. Il y a ceux qui s'angoissent et ceux qui ne veulent pas le faire. Dans Corriere del Ticino, qui est un quotidien suisse, de Suisse italophone, l'éditorialiste Fabio Pontigia refuse de s'alarmer. Angoisser la population n'est pas le meilleur moyen de gérer cette phase de la pandémie, écrit-il. À l'inverse, dans le Corriere della Sera, Giuseppe Derita s'inquiète. Il alerte sur le retour d'un pic de l'épidémie ingouvernable, sur l'arrivée de nombreuses crises d'entreprises et de pertes d'emplois qui en découleront. Passons en revue cette liste de crises et de tensions potentielles, dit-il, et nous verrons que nous ne sommes pas prêts à y faire face.
On change de sujet, mais on reste dans l'Union européenne. Nous sommes cette fois en Bulgarie.
Oui, la Bulgarie, où le Premier ministre Boyko Borisov est confronté depuis plusieurs semaines à un fort mouvement de protestation. De nombreuses manifestations dénoncent la corruption et le clientélisme qui ronge le pouvoir en Bulgarie. Alors, pour tout comprendre sur le sujet, article en longueur sur le site European Council on Foreign Relations, c'est un centre de recherche européen qui publie des études. La crise politique en Bulgarie, lit-on, est une menace pour la stabilité future de l'Union européenne. La Bulgarie attend actuellement d'entrer dans la zone euro. La stabilité politique du pays, fondée sur l'état de droit, la démocratie ou encore la lutte contre la corruption, est crucial pour une éventuelle adhésion à l'euro. Le gouvernement bulgare actuel n'a jamais réussi à faire en sorte que les réformes respectent ses principes. Le Premier ministre bulgare tente actuellement de reprendre la main avec un remaniement. Il a par exemple remercié son ministre des Finances, à qui il est reproché d'avoir toléré des fraudes fiscales dans le secteur des jeux de hasard. Le ministre de l'Intérieur quitte également son poste. Il est tenu responsable de violences policières à l'égard de manifestants. Mais est-ce que tout cela va suffire à calmer la foule? Pas sûr du tout, selon le quotidien bulgare de gauche Douma. Les vieilles combines de Borisov, écrit-il, consistant à se sauver lui-même en faisant démissionner les autres, ne fonctionneront pas cette fois-ci. Des dizaines de milliers de personnes veulent la démission du gouvernement parce qu'ils sont dégoûtés par Borisov, par son arrogance et par sa vulgarité. Il leur propose de simplement remplacer certains noms sans rien changer sur le fond. L'avenir du pays vaut mieux que cela, fin de citation. Le gouvernement bulgare peut-il alors compter sur sa politique sociale peut-être pour retrouver une crédibilité? Par exemple, il vient d'annoncer de nouvelles mesures d'aide aux retraités et aux chômeurs pour faire face au coronavirus. Mais là encore, ça risque de ne pas satisfaire les manifestants. Anna Krasteva est politologue. Elle est interviewée dans le journal conservateur bulgare Dnevnik. Et selon elle, le gouvernement interprète comme sociale une protestation qui est politique. Fin de citation. C'est un article qui est cité notamment sur le site eurotopics.net.
Merci Ilan Malka. Votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.